Mais qu'on n'a pas voté.
Cosé Kilti, le rendez-vous des cultures en Haïti. Ritzamarum Zetren sur RFI.
Bonsoir à tous et bienvenue dans Cosé Kilti. Cette émission vient boucler notre tournée à Montréal. Nous avons fait choix durant cette tournée de mettre en lumière des personnes et des structures qu'on ne retrouve pas tous les jours dans la presse. J'espère que ce choix vous a plu. N'hésitez pas à partager vos commentaires et suggestions sur tous nos réseaux. C'est Cosé Kilti et partout. Pour cette dernière émission à Montréal, je vais recevoir Ricardo Junior Emmanuel. C'est un jeune haïtien qui dirige l'association Attire-Del qui se donne pour mission de contribuer au rayonnement de la francophonie et de valoriser la langue française au Canada. Ricardo Junior Emmanuel sera avec nous tout de suite après ça.
Cosé Kilti sur RFI, c'est le samedi à 3h30 de l'après-midi, le dimanche à 1h10 et le soir à 8h30.
Bonsoir Ricardo Junior Emmanuel.
Bonsoir Zétrène.
Ricardo Junior, vous êtes le directeur général et cofondateur de l'association Attire-Del, une organisation à but non lucratif enregistrée au Québec. Vous êtes également membre du conseil d'administration de l'Association canadienne d'éducation en langue française. Actuellement enseignant de français et journaliste, vous avez plein d'autres chapeaux dont on va parler au fur et à mesure de cette entrevue. Mais d'abord, Ricardo Junior Emmanuel, racontez-nous votre arrivée au Canada. Comment vous êtes-vous installé ici?
En fait, avant, j'avais l'habitude de visiter le Canada régulièrement et de participer à divers événements en lien avec la francophonie. Mais à un certain moment en Haïti, la situation devenait de plus en plus précaire, c'est-à-dire marquée par une insécurité croissante et des tensions politiques qui sont encore d'actualité. Sans oublier ma position par rapport au gouvernement, j'avais des critiques envers le gouvernement de l'époque. Tout ceci avait contribué, je dirais, à un climat de méfiance et de danger pour ma vie personnelle. De là étant, en janvier 2020, j'avais pris la décision de quitter définitivement Haïti pour m'installer ici au Canada. Donc, à cette époque, j'avais choisi de m'établir dans une région, la ville de Sherbrooke, non seulement parce que je comptais poursuivre mes études à l'université de Sherbrooke à l'époque, et cette ville me semblait idéale pour une transition, je dirais une transition réussie pour moi comme jeune migrant. Et à ce moment, ce choix était pour moi un moyen de reconstruire mon quotidien dans un environnement plus stable, tout en restant connecté à la culture francophone que j'apprécie tant.
Ah ouais, c'est surtout à cause de la francophonie que ce soit le Canada. Ça aurait pu être les États-Unis, puisqu'on sait que les Haïtiens, ils aiment immigrer aux États-Unis d'Amérique. Mais vous avez choisi le Canada, c'est avant tout pour la francophonie.
Exact, exact. Plus particulièrement le Québec.
Et qu'est-ce qui allait vous motiver à rester ici?
Ce qui m'avait motivé à rester au Canada, plus particulièrement au Québec, c'est la qualité de vie. Ça, on ne peut pas s'en passer, et aussi le sentiment d'appartenance que j'ai trouvé ici. Parce que, au prime abord, le pays m'a offert un environnement paisible et sécurisé, contrastant fortement avec l'insécurité que je vivais en Haïti. Et au-delà de tout ça, il y a aussi le dynamisme culturel de la province et les événements francophones qui ont facilité mon intégration et m'ont permis de maintenir un lien, je dirais, un lien précieux avec ma langue et ma culture.
C'est vrai que lorsqu'on est au Québec, on a comme l'impression de n'être pas trop loin d'Haïti.
D'Haïti, évidemment.
Alors, certainement, vous vous installez dans un nouveau pays, c'est une nouvelle culture, même si, comme on vient de le dire, on n'est pas loin d'Haïti par rapport au nombre d'Haïtiens, à la communauté haïtienne et au Québec. Mais il y a quand même des défis, je dirais, peut-être liés à l'adaptation. Et quels ont été les principaux défis pour vous, jeunes immigrants au Canada à l'époque?
À l'époque, comme jeune immigrant au Canada, il y a deux principaux défis auxquels j'ai fait face. D'abord, c'était l'adaptation culturelle, comme tu l'as si bien mentionné, qui constituait pour moi l'un des principaux défis, et aussi le système éducatif. Parce qu'en Haïti, j'étais enseignant, avec beaucoup d'années d'expérience, mais arrivé ici en 2020, la reconnaissance de mon diplôme d'enseignement reste un véritable casse-tête pour moi. Donc, ceci m'avait poussé à faire un changement de carrière où j'ai étudié le journalisme à Promédia et j'ai décroché, j'étais obligé d'aller chercher une licence à l'École supérieure de journalisme de l'Université de Lille, une étude que j'ai faite à distance. Mais on le dit toujours, la réalité nous rattrape. Aujourd'hui, je suis enseignant de français au Centre de services scolaires de Rouyn-Noranda et aussi journaliste. Donc, au début, l'adaptation culturelle n'était pas facile pour moi. Et la reconnaissance des acquis, ce que j'avais déjà accumulé comme compétences en Haïti, c'était très difficile à faire valoir ces acquis ici au Québec.
Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a particulièrement aidé à surmonter tous ces obstacles au début?
Ben, s'il y a quelque chose qui m'a particulièrement aidé, je dirais, c'est mon courage. Parce que je suis quelqu'un très courageux. Je me rappelle quand j'ai entamé le processus pour faire l'évaluation comparative de mon diplôme, et puis c'était pas valable ici au Québec pour être enseignant, parce que au Québec, il faut avoir un brevet pour enseigner, même si tu as fait ton bac en Haïti. Et ça m'avait demandé d'aller faire au moins 2 ans d'études pour pouvoir décrocher le brevet d'enseignement comme professeur français avec un contrat permanent.
Maintenant, vous êtes un jeune ambassadeur de la francophonie des Amériques depuis 2011 et vous êtes retourné en 2022 au Forum des jeunes ambassadeurs de la francophonie des Amériques en tant que chef d'équipe cette année. Vous y avez été comme intervenant. Qu'est-ce que cela représente pour vous, Ricardo?
Retourner au forum en 2022 comme chef de famille et participer à la 7e édition cette année comme étant l'un des intervenants, c'était pour moi un moyen, je dirais un moyen de me ressourcer, mais aussi une façon de partager la flamme de la francophonie avec les participants. D'ailleurs, j'ai toujours voulu continuer à m'impliquer dans le rayonnement de la francophonie au Québec, comme je le faisais en Haïti, à travers les activités que j'organisais, à travers les conférences auxquelles je participais, à travers les événements auxquels je prenais part. Donc, pour moi, 11 années plus tard, retourner dans l'enceinte même de ce grand événement qui est le Forum des jeunes ambassadeurs de la francophonie des Amériques, pour rencontrer des jeunes qui sont aussi autant passionnés que moi, qui sont des francophones de cœur, des francophiles qui sont passionnés de la richesse de la francophonie. Je le disais tantôt, c'était pour moi un moyen de me ressourcer, mais aussi de tisser des liens et de partager la flamme de la francophonie.
Une question qui me vient à l'esprit, c'est de vous demander, vous, en tant que jeune haïtien, on sait, on connaît la situation du français en Haïti, c'est une langue minoritaire, mais qui est vraiment, qui a tellement de préjugés qui l'entourent dans le pays à cause, en partie de notre histoire, notre passé colonial. Et vous, est-ce que ça a toujours été facile pour vous d'adopter cette posture de défenseur de la langue française au promoteur de cette langue française.
Je ne veux pas prendre le chapeau de défenseur de la langue française, mais plutôt, je dirais, promoteur de la langue française.
Parfait.
Parce qu'en 2011, j'ai pris part au Forum des jeunes ambassadeurs, j'étais tout jeune, mais je venais de faire mes premiers pas au niveau de l'enseignement en Haïti. Alors, j'ai fait ce constat, d'ailleurs, j'ai même produit mon travail de mémoire sur ce constat, à savoir le bilinguisme dans l'enseignement en Haïti, les avantages et les inconvénients. Donc, une façon de te dire que je ne me voyais pas comme un défenseur, mais plutôt comme un promoteur de la langue française, même si je suis toujours d'accord de cet adage qui dit que l'enfant est beaucoup plus apte à apprendre dans sa langue maternelle.
Oui, c'est
Cette
vrai.
possibilité-là, on ne va pas l'écarter. D'ailleurs, j'ai participé dans un documentaire Intimité francophone, j'ai énoncé cette assertion, à savoir que l'enfant, l'apprenant, est beaucoup plus apte à apprendre dans sa langue maternelle. C'est pourquoi je ne me vois pas dans la posture d'un défenseur de la langue française, mais plutôt dans la posture d'un promoteur de la langue française. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, le français est considéré comme la troisième langue la plus répandue. Donc, au niveau d'affaires, on utilise le français comme langue d'affaires aujourd'hui. Donc, C'est vrai que en Haïti, parler le français nous met dans une posture de, je dirais, d'une élite sociale, mais moi, je ne vois pas, je n'aborde pas ce concept ou encore cette réalité de telle façon-là.
Ricardo Junior Emmanuel, on va écouter une chanson rapidement, le temps qu'on respire un peu. On va écouter Zachary Richard, c'est un artiste connu comme un résistant francophone. C'est un artiste qui mène un combat en Louisiane pour le français. On écoute, bonsoir, bonsoir.
On arrive à Sabine, retiens tes larmes, ça me casserait le cœur. Comme ça, c'est déjà si dur. Je n'ai rien fait pour mériter ça. C'est parce que je suis pauvre et pas comme eux autres. Je reste à pointe bleue, ils viendront me voir. Cette fois, ils ont promis de faire pire que l'autre fois. Bonsoir, ma chère, bonsoir. Avant que la nuit tombe sur nous encore, embrasse-moi et souhaite-moi bonsoir. Travers la rivière, c'est ma liberté. Dans le Texas, ils vont jamais me trouver. Soigne les enfants et prie donc pour moi. Mais pas l'espoir de se retrouver un beau jour. Bonsoir, ma chère, bonsoir. Avant que la nuit tombe sur nous encore. Embrasse-moi et souhaite-moi bonsoir.
Bonsoir, bonsoir de Zachary Richard. Voilà une chanson qui nous a permis de respirer un peu dans cette émission. Et puis en juin 2022, vous avez fondé l'association Aterdel avec pour but de contribuer au rayonnement de la francophonie. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu, Ricardo Junior Emmanuel?
Effectivement, j'ai cofondé l'association Aterdel en juin 2022 au Québec. Donc, c'est une association qui a pour objet de contribuer au rayonnement de la francophonie et aussi de favoriser la valorisation de la langue française à travers des actions concrètes qu'on est en train de mener sur le terrain, parce qu'on organise des activités de jumelage entre les écoles francophones partout au Canada et ailleurs. Et on organise également des tables rondes, des journées de réflexion pour discuter sur les enjeux de la francophonie en milieu minoritaire, tout en proposant des pistes de solutions ou encore des alternatives. Et en dernier lieu, nous organisons des journées pédagogiques pour les enseignants francophones en milieu minoritaire. Donc, Aterdel a seulement 2 ans, parce que c'est une association qui est créée en juin 2022. On vient de célébrer nos 2 années d'existence, mais pendant ces 2 ans, on a pu réaliser beaucoup, beaucoup, beaucoup d'activités ici au Canada, plus particulièrement dans la province du Québec.
Et ce qui vous a motivé à créer cette association, c'est avant tout cet amour pour la langue française.
Tout à fait, c'est cet amour pour la langue française, cet amour pour la francophonie, cet amour pour les jeunes francophones en leur donnant la possibilité de partager leur vécu. D'ailleurs, on a un projet phare au sein de l'association qui est le concours d'écriture francophone. C'est un espace où l'on donne aux jeunes francophones ici au Québec, au Canada et ailleurs dans les Amériques de partager avec un auditoire leur réalité francophone, leur vécu, je dirais, leur proximité avec cette langue française.
Ce qui veut dire que à Tire-d'Aile, c'est pas une association qui, ouais, c'est vrai, vous êtes établi au Canada, au Québec en particulier, mais c'est une association qui vise l'ensemble des territoires francophones
Francophone.
des Amériques en particulier.
Des Amériques en particulier, oui.
Et quelles sont les perspectives?
Ben au niveau de l'association, présentement, on n'a pas un local fixe. On est en train de réfléchir à mettre sous pied un projet où on pourrait avoir un local fixe pour organiser des activités, par exemple des journées de porte ouverte pour les migrants ici au Canada, au Québec, dans la province de Québec. Et autre projet là sur lequel on travaille présentement, c'est essayer de voir comment on pourrait rendre beaucoup plus attrayant la troisième édition du concours d'écriture francophone. Et aussi le projet de jumelage qu'on a. Généralement, le projet de jumelage, c'est un projet qu'on fait avec des écoles de la Louisiane, de Lafayette, des écoles en Guadeloupe, des écoles en Saskatchewan. Donc, on essaie de voir comment on pourrait rassembler beaucoup plus d'écoles, surtout des écoles en Haïti, parce que l'année dernière, on avait une école en Haïti, mais la situation que connaît le pays a empêché en quelque sorte à ce que les enfants puissent vraiment participer à ce projet de jumelage.
Et ce que j'aimerais vous demander, là, je vois que vous avez une certaine connexion à travers différents territoires des Amériques, comme la Louisiane ou encore Haïti, dont vous venez de parler. Et comment vous y prenez-vous pour avoir cette connexion, pour toucher tous ces territoires?
D'abord, je me suis référé ou encore les têtes, quand je parle des têtes, je parle des jeunes ambassadeurs de ce grand réseau de jeunes ambassadeurs de la francophonie des Amériques. Donc, une fois que j'ai un projet comme le projet de jumelage, mon premier contact, c'est toujours les jeunes ambassadeurs de la francophonie. Donc, en Louisiane, j'ai des amis qui ont participé dans des éditions de forums antérieurs et je garde contact avec eux et puis ils me mettent en contact avec soit les commissions scolaires ou bien la direction d'école, et comme ça, on fait le suivi, nous, au niveau de la direction de l'association, pour que ces écoles-là puissent participer dans le projet. Par exemple, l'école qui est à Saskatchewan, qui participe dans le projet de jumelage, l'école de Monseigneur Laval, cette collègue-là, je l'ai rencontrée au stage de perfectionnement en éducation quand j'ai participé en 2019. C'est un stage que l'Association canadienne d'éducation en langue française organise presque chaque année et j'avais la possibilité de bénéficier une bourse de la part du Centre de la francophonie des Amériques pour prendre part à ce stage. Et j'ai gardé contact avec cette collègue. Et puis après, je lui ai dit, ben, j'ai un projet que je voulais mettre sous pied, un projet de jumelage avec des écoles francophones en milieu minoritaire, parce qu'il est important de préciser cet aspect-là, des écoles francophones, mais en milieu minoritaire. Et puis, cette collègue-là a fait le contact avec la direction, a fait le pont pour nous entre l'association et la direction de l'école. Et de là étant, on s'est lancé dans le projet, tout comme l'école Lafayette, c'est une ancienne ambassadrice qui fait le pont pour nous. Donc, c'est pour te dire que moi, de mon côté, quand j'ai ce genre de projet-là, je me réfère au réseau des jeunes ambassadeurs, parce que les jeunes ambassadeurs de la francophonie, ils sont partout dans les Amériques.
Est-ce qu'il y a une chose, Ricardo Junior Emmanuel, qui vous donne de la force pour continuer à faire ce travail?
Je dirais ma passion. C'est ma passion pour la francophonie. Parce que cette passion-là, Elle provient de plusieurs aspects fondamentaux. D'abord, de mon parcours personnel et surtout professionnel comme enseignant de profession. Et au fil des années, j'ai aussi cette opportunité de voyager, de participer à divers événements qui sont liés à la francophonie. Donc, ceci a en quelque sorte renforcé mon admiration pour la diversité et la richesse des cultures francophones à travers le monde, et aussi les expériences que j'ai la possibilité, c'est les expériences que j'ai vécues aussi. Toutes ces expériences-là m'ont permis de découvrir la pluralité des expressions culturelles francophones et d'apprécier également la manière dont la langue peut servir de pont entre les individus et les communautés, parce que si on définit la langue comme un outil de communication, maintenant j'arrive au Québec ou bien j'arrive à Toronto. Oui, c'est une province anglophone à Toronto, mais il y a la communauté francophone. Donc, ce qui m'a donné en quelque sorte cette force-là, cette énergie pour continuer d'avancer dans cette voie-là qui est la voie de la francophonie, c'est avant tout une passion pour la francophonie, une passion pour la diversité de la francophonie, une passion pour la richesse de la francophonie. C'est une francophonie qui est riche en termes de diversité, mais nos actions, en termes d'action, nous sommes unis au niveau des actions.
Très bien. En fait, ce que j'aimerais vous demander maintenant, Ricardo, vous êtes au Canada, là, c'est pas le même contexte, c'est pas la même réalité avec Haïti. On sait dans quelles conditions vous avez laissé le pays. Il y avait beaucoup d'insécurité. Vous avez quitté le pays dans ces conditions-là et rien n'a changé. On peut même dire que la situation a beaucoup détérioré, s'est aggravée depuis. Dites-nous, Ricardo, comment vivez-vous tout ça de loin? Quand vous écoutez les nouvelles à la radio, comment vous sentez?
Il y a la nostalgie, parce que ça fait 4 ans que j'ai laissé Haïti et j'ai même pas encore la possibilité de revenir dans mon pays. Pourquoi j'ai dit j'ai même pas encore la possibilité de revenir dans mon pays? Parce que quand on regarde à la télé, quand on écoute à la radio tout ce qui se passe en Haïti, j'ai même envie de me poser cette question. Est-ce qu'il y a de l'espoir pour ce pays? Oui, nous sommes nombreux qui évoluent à l'extérieur. Nous sommes nombreux qui ont les capacités requises pour mettre le pays sur le bon chemin. Mais on ne nous donne pas cette possibilité-là. Il y a l'insécurité, il y a la corruption qui font rage au niveau de la société. Donc, c'est un pays, je dirais, qui est. C'est un pays qui est, je trouve pas le mot exact, mais j'ai même envie de dire que c'est un pays qui est zombifié quelque part, zombifié par nos leaders politiques, zombifié par nos leaders qui n'ont aucune âme et conscience pour mettre le pays sur le rail du développement, pour donner espoir aux gens qui sont de l'extérieur, pour donner l'espoir, par exemple, moi qui vis au Canada. Donc, j'aimerais continuer à mettre en valeur les compétences que j'ai accumulées ici sur le terrain au profit des jeunes Haïtiens. Mais le pays ne me donne pas cette possibilité-là. Donc, il y a la nostalgie, il y a quelque part le remords aussi, il y a aussi l'indignation parce que Haïti m'a tout donné parce que c'est là que j'ai fait mes études primaires, mes études secondaires, les études universitaires avant de venir m'installer au Canada. Haïti m'a tout donné, mais des années plus tard, est-ce que je suis en mesure de retourner à ce beau pays-là qui a fait de moi ce citoyen que je suis aujourd'hui? Non, j'ai pas cette possibilité-là. Mais c'est bien malheureux.
Et c'est pas l'envie qui manque de revenir
Du tout pas.
au pays. Ricardo et Junior Emmanuel, si quelqu'un voudrait entrer en contact avec l'association Attiardel, vous êtes joignable sur les réseaux sociaux.
Oui, on est joignable sur les réseaux sociaux et très prochainement, on fera le lancement officiel de notre site internet et Attiardel est sur les pages Facebook, Instagram et LinkedIn et Twitter.
Parfait. Ricardo Junior Emmanuel, merci beaucoup, c'était un plaisir.
Merci à toi aussi et ça a été un plaisir de lier connaissance avec toi, de te rencontrer au Forum des jeunes ambassadeurs de la francophonie des Amériques.
Et c'était un plaisir pour moi aussi.
D'accord, mon cher.
On reste dans le répertoire de Zachary Richard avant de refermer cette émission. On va écouter « Il y a un vent qui me ramène ».
D'aussi loin, d'aussi longtemps, il y a un vent qui me ramène.
Il y a un vent qui me ramène, c'est une chanson de Zachary Richard, celui qu'on connaît comme un résistant francophone. Comme on l'a dit tout à l'heure, il mène un combat pour le français, notamment en Louisiane et sur tous les territoires acadiens. Moi-même, je l'ai rencontré dernièrement en Nouvelle-Écosse, en particulier dans la ville Clare, dans le cadre du Forum des jeunes ambassadeurs de la francophonie des Amériques. Zachary Richard, c'est une belle âme, c'est une personne exceptionnelle. Et c'est comme ça qu'on met fin à notre tournée estivale à Montréal. C'était un long et passionnant voyage. Merci à chacun de vous de nous avoir suivis tout le long de cette aventure. Merci à tous les partenaires qui nous ont soutenus. Merci à tous ceux qui nous ont accompagnés durant notre séjour à Montréal et en Nouvelle-Écosse, au Canada. Merci à l'Institut français en Haïti, l'ambassade de France en Haïti et l'Organisation internationale international de la francophonie, OIF. Merci également à notre réalisateur Stéphane Chéri. Merci à tous. N'oubliez pas que vous pouvez réécouter toutes les émissions de cette saison en podcast sur le site www.rfi.fr, mais aussi sur l'application RFI Pure Radio. Écoutez aussi toute l'actualité en Haïti, c'est du lundi au vendredi à 9h10 dans le journal d'Haïti et des Amériques avec Anne Kotner. Moi-même, je suis Gritza Marom Zetren. J'ai pris énormément de plaisir à vous combler de bonheur et de bonne humeur. On se retrouve le week-end prochain pour une nouvelle émission. D'ici là, prenez soin de vous et de vos proches. Je vous dis à bientôt.